Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick Péel, diffusé en direct mardi 18 novembre 2008. Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce libre journal de la nuit de la vieille Europe. Au sommaire de cette émission de novembre, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Philippe Grasset, le responsable et le créateur du fameux site de Défensa. Bonsoir Philippe Grasset. Nous parlerons avec vous dans une première partie de votre site, l'un des sites peut-être les plus importants sur l'analyse de la géopolitique et géostratégique. Puis dans une deuxième partie, nous verrons avec vous en ce mois d'anniversaire de novembre votre livre sur la guerre de 14-18, Les âmes de Verdun, et votre passionnante thèse sur la victoire de l'homme sur la ferraille. Et une troisième partie consacrée à notre actualité européenne pour conduire nos débats. Nous avons le plaisir d'avoir nos brillants chroniqueurs, Philippe Christel, bonsoir.
Bonsoir Patrick.
On aura le droit à une forte et riche actualité comme d'habitude.
Oui, si vous le demandez, vous aurez ça.
Donc, on va parler un petit peu de la nouvelle donne impulsée par la Russie autour de l'offre d'hypothèse zéro sur la bataille des missiles entre la proposition américaine et la contre-offensive russe, curieusement relayée par Nicolas Sarkozy. On pourra parler aussi un petit peu de ce qu'on a dit au sujet des fonds d'investissement et puis quelques brèves autour de la Turquie, de l'Allemagne, de la loi de programmation militaire, etc. etc.
Ouais, mais alors là, les gens vont être obligés d'attendre la troisième partie pour vous entendre dire du bien de Nicolas Sarkozy. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Lucien Valdès. Bonsoir Lucien.
Bonsoir.
Et Lucien Valdès, c'est à vous qu'appartient l'honneur de nous présenter plus en détail notre invité, Philippe Grasset, et bien sûr de poser les premières questions. Mais d'abord, on vous écoute.
Oui, une petite présentation s'impose tout d'abord pour nos auditeurs. Philippe Grasset, vous avez 64 ans, une belle carrière de journaliste, d'écrivain, consacré essentiellement à la politique extérieure et de sécurité. Installé près de Liège, vous êtes un précurseur du net, puisque vous animez depuis 1999 le site defensa.org, et dont les centres d'intérêt tournent autour de l'Europe de la défense, des relations transatlantiques, de l'industrie aéronautique et d'armement, mais aussi de communication, ou plutôt de ce que vous appelez le virtualisme. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette notion qui me semble essentielle lorsqu'on est un accro de votre site, comme nous le sommes tous autour de cette table ?
Vous expliquez, ça fait des années que j'essaye de comprendre, j'ai trouvé le mot, je me suis dit que c'était une bonne idée, je vais essayer de vous expliquer. Il y a au départ, existe la propagande. La propagande, c'est quand on déforme la vérité, mais qu'on sait qu'on déforme la vérité. Le virtualisme, pour faire court et pour faire simple, après on peut en débattre, c'est la propagande par des gens qui croient absolument à leur propagande. Et c'est possible grâce au développement des communications qui réussit à créer un tissu formidable d'informations qui vont toutes dans le même sens, qui ne sont pas déformées volontairement, qui sont déformées par des pressions normes, je dirais bureaucratiques. Les Américains, car le virtualisme est quelque chose de fondamentalement américaniste, ils s'en rendent un peu compte, ils ont une expression pour ça, ils appellent ça groupthink ou groupthinking, c'est-à-dire si vous voulez, c'est du conformisme institutionnalisé, groupthink, on pense en groupe, on ne peut pas penser autrement que le groupe, mais c'est pas un point de terreur, c'est pas un problème, vous n'avez pas une pression sur vous, vous avez, moi, mon idée, ma question fondamentale, c'est est-ce que ça touche la psychologie ? Est-ce que ces gens ne sont pas, n'ont pas une psychologie différemment conformée qui leur permet effectivement de dire cette fausse vérité en toute honnêteté. Et c'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait leur force et qui fait leur faiblesse après quand le virtualisme se heurte la réalité.
Parce que, citez-nous un exemple, si vous aviez à citer un exemple.
Ah, c'est les armes de destruction massive en Irak. D'ailleurs, moi je le dis, mais enfin, un homme comme M. John Hamrey, qui a été numéro 3 du Pentagone, qui est président du Center for Strategic and International Studies et qui va peut-être être le futur secrétaire à la défense, je ne sais pas, il a témoigné au Congrès. congrès, c'était en septembre 2003, il a expliqué, oui, on s'est tous gourés, on croyait tous que les armes de destruction massive existaient. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, ces gens-là nous ont monté cette affaire des armes de destruction massive, et moi, derrière mon petit écran, je me disais, bon, c'est complètement du bidon, mais ils vont quand même avoir l'intelligence d'envoyer... Vous voyez, une escouade de l'US Army poser des armes de masse, de destruction massive américaine, et puis dire, voilà, vous avez bien dit, ils sont là. Ils l'ont pas fait. Ils ont cherché pendant un an et demi, ils n'ont rien trouvé. Donc, il y a vraiment une sincérité très grande, et vraiment, le témoignage d'Amré était extraordinairement lumineux, parce que il était là, il disait, on est tous des gens intelligents, on tous se confirme, etc. Et c'était vraiment c'est un cas typique, ça.
Alors, c'est pour ça que vous utilisez, enfin, que la grande majorité des sources d'informations que vous utilisez sur votre site defensa.org provient de la presse anglo-saxonne?
Oui, mais enfin, c'est pas pour ça. C'est pour ça et c'est pas pour ça. Bon, je suis pas toujours simple. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Le monde du anglo-saxon et le monde de l'américanisme, d'un côté, c'est un monde complètement enfermé dans un conformisme extraordinaire qui touche peut-être la psychologie, qui est bureaucratisée. Et à côté de ça, c'est une liberté complète institutionnalisée. Et là, je dis pas ça dans le sens de la vertu. La liberté est quelque chose absolument nécessaire au fonctionnement de leur économie. S'il n'y a pas la liberté, leur économie se casse la figure. Donc, la liberté existe. C'est pas un slogan, elle existe absolument. Alors, vous avez d'un côté quelque chose qui est complètement perverti par leur virtualisme, leur construction, et à côté de ça, vous avez une liberté dont certaines personne, notamment dans la presse, profite pour écrire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vous avez les plus grands critiques du système de l'américanisme, ce sont les écrivains américains, ce sont ce que j'appelle les dissidents américains, c'est-à-dire toute une frange d'experts américains qui sont même des types extrêmement de très haut niveau et considérés comme tels d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques noms peut-être?
Oh, au niveau des experts, vous avez des gens comme... vous avez tous les gens qui sont groupés, qui sont soit de droite, soit de gauche, mais bon, vous avez des gens comme Noam Chomsky, on en parle, des gens comme Jim Lobey, des gens comme William S. Lyne, qui est par exemple un militaire, qui est un ancien militaire. Vous avez aussi des militaires qui sont comme ça. Vous avez toute l'école des réformateurs du Pentagone, le colonel Boyd. Vous avez c'est des noms qui sont peut-être pas familiers au public français, mais c'est des noms qui comptent. Quand ils écrivent quelque chose, on les écoute, et ils écrivent des choses dévastatrices. Ça ne change rien au système. Alors, vous êtes devant un mystère. L'Amérique, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une machine qui fonctionne de façon extraordinaire, et là-dedans, il y a des gens dont certains nous crient au secours. On est en train de devenir fou, et ça continue à marcher. C'est comme ça. Et vous savez, donc, du nom, je parle aussi, vous pouvez prendre tous les écrivains américains, tous les grands écrivains américains, ce sont des plus fantastiques critiques sociaux de l'Amérique.
Bien sûr. Justement, pour revenir à l'exemple que vous donniez sur les armes de destruction massive, c'est vrai que dans ce cas-là, on a parlé de cette idéologie conservatrice qui est arrivée à la Maison Blanche. Est-ce que vous faites une différence, vous, entre cette politique qui a été menée et, par exemple, l'époque de Nixon où on faisait de la realpolitik? Est-ce que il y a vraiment ces deux Amériques différentes ou on est exactement dans le même schéma
Vous parlez de Nixon et à mon avis...
Ou est-ce que Nixon était une exception, peut-être?
Moi, je crois que vous tombez sur un mystère. Nixon, c'est un mystère. Il a un côté absolument crapuleux, totalement détestable et méprisable. À côté de ça, il a des éclairs de lucidité. Je me rappelle une réplique dans le film d'Oliver Stone et Nixon. Et Nixon, ça se passe en 71, il y a des manifestations partout. Et un soir, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça s'est passé, mais ça m'étonnerait pas. Un soir, il y a Nixon qui dit à Haldeman ou à Ehrlichman, donc c'est adjoint, qui veut aller voir des manifestants. Et il va voir des manifestants, il arrive dans le grand hall du congrès où il y a Lincoln, là. Et puis il y a des gamines de 17, 18 ans, 19 ans, etc. Et il y a une gamine qui arrive vers lui, qui commence à lui dire, mais qu'est-ce que vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, la guerre, etc. Et il y a Nixon qui lui dit, mais j'essaye de faire la paix, j'essaye de faire la paix. Et il y a la gamine qui lui dit, mais vous parlez de ça comme si vous n'arriviez pas à la dompter, la bête. Et Nixon dit, putain, elle a raison. Et dans cette réplique, je me demande si vous savez pas le drame d'un homme, parce que Nixon est un homme qui, à partir de 71, a commencé à diminuer le budget de défense. Le drame d'un homme qui a essayé de dompter les militaires, de dompter le complexe militaro-industriel. Vous savez que la véritable explication du Watergate, et ben moi je l'ai découverte récemment parce que j'avais raté ce bouquin qui est paru en 83. C'est un complot du Joint Chief of Staff, c'est-à-dire du comité des chefs d'état-major. Le principal reporter du Washington Post, Bob Woodward, il a d'abord été dans le service de renseignement de la marine. Il a travaillé pour l'amiral Maurer, qui était alors le président du Joint Chief of Staff. Et toute cette histoire est partie des militaires, parce que les militaires craignaient que Nixon fasse une politique de détente. Nixon a fait une politique de détente. Et il y a l'ambassadeur du RSS à Washington, à cette époque, qui a écrit des mémoires et qui a dit, si Nixon n'était pas tombé, il pouvait faire avec Brejnev ce que Gorbatchev a fait 15 ans plus tard. Donc c'est un homme absolument, totalement mystérieux. Parce que je pense que c'est l'un des hommes qui a eu la politique étrangère la plus étonnamment intelligente, j'insiste sur le terme étonnamment, intelligente qu'ait jamais eu les États-Unis.
Il a été aussi l'un des seuls quasiment vice-présidents à vraiment eu à avoir un travail à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas pour les vice-présidents américains à l'époque d'Eisenhower.
Oui, et au départ, c'était un macartiste.
Oui,
donc
oui, oui.
Tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble. Essayez de vous en sortir. Bon, ce que je sais, moi, de plus en plus j'avance, plus je me dis c'est une machine infernale. Il y a des gens dedans, certains qui arrivent à s'en sortir, certains qui collaborent, certains, quelques rares, qui de temps en temps se révoltent.
Alors, pour revenir peut-être à l'actualité, là, on va arriver à la fin de cette ère Bush. Vous qui, effectivement, êtes un fin observateur de la vie politique américaine, est-ce que les Européens se font encore une illusion sur l'arrivée de ce démocrate?
Comme ça, au départ, bien sûr, ils se font une illusion. C'est pas parce que un démocrate ou un républicain ou un tartampion arrive que ça va changer quelque chose. Au départ, ça ne doit rien changer. Bon, au départ, d'ailleurs, on voit déjà les attaques contre Obama, etc. Le problème, c'est que l'Amérique, elle pète de partout en ce moment. Donc, elle devient incontrôlable. Le problème, c'est qu'Obama, c'est un homme très intelligent, qui a réussi tout son coup grâce à l'utilisation d'Internet, qui a montré des capacités au niveau du contact avec la population très grande. Donc, c'est un noir, c'est pas indifférent. Je sais pas pour le multiculturalisme que je veux dire ça. Je veux dire que c'est un noir, ça lui donne une certaine immunité dans la critique. On n'ose pas trop le critiquer au départ parce qu'on l'a mis devant la scène, c'est l'Amérique grandiose qui a enfin résolu son problème du racisme, on pleure, et puis voilà Obama, donc on ne peut pas tellement attaquer Obama. Donc il a des avantages, et c'est un personnage assez énigmatique, et moi je pense la question qui me vient à l'esprit avec Obama, vu les problèmes colossaux qu'il va avoir abordés, est-ce qu'il va être le Gorbatchev américain? Et c'est ça la grande question. Et Gorbatchev a réussi ce qu'il ne cherchait pas à détruire, parce qu'il voulait pas détruire le régime communiste, mais il voulait le réformer.
Il l'a détruit
en tournant la bureaucratie, c'est-à-dire en attaquant la bureaucratie par l'extérieur, grâce à ce qu'il a appelé la glasnost, qui était la transparence, qui était la publicité des mots, on pouvait commencer à parler haut, etc. Et, bon, ben, je me demande si un homme comme Obama peut pas, à un moment, moi j'ai vu une interview, il est passé à CBS, 60 minutes là, et vraiment il avait des mots, l'air de dire, on ne sait pas par où commencer tellement la catastrophe est immense. Et quand un homme est dans ses dispositions, il est possible qu'il fasse des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas ce que les Européens attendent, hein, parce que ce qu'ils pourraient faire, c'est casser le système. Les Européens, ils en auront des frissons dans le dos, parce que ça fait 60 ans qu'ils sont à genoux devant le système en disant c'est le plus beau. Donc, les surprises que pourrait amener Obama nous surprendront nous aussi.
Philippe Christel, tout
peut-être sur le sujet.
Oui, simplement pour les premières nominations de l'équipe d'Obama, que ce soit Rahm Emanuel, qui montre qu'a priori les plus bellicistes sur la question irakienne sont reconduits par Obama. Alors par Obama, est-ce que
Robert Gates, de la défense de Bush.
Encore que Robert Gates s'était installé comme d'abord il n'est pas nommé, et puis Robert Gates a été installé comme le spécialiste qui réparait les pots cassés par Rumsfeld, l'idéologue. Donc ce sens, on peut pas dire que Gates soit le plus faucon des faucons. Il était, mais on connaît également le brave Brzezinski, qui a continué à reprendre du service, a été enrôlé dans les équipes de campagne d'Obama. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très tôt pour savoir quelles sont les nominations exactes et l'inflexion exacte qui sera donnée à la politique du département d'État. On annonce peut-être Hillary Clinton au département d'État, on verra bien. Mais aujourd'hui, rien ne dit qu'Obama s'oriente dans cette direction-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vous dis, on verrouille. Ça ne se verra pas dès le départ. Simplement, ce que vous pouvez voir, par exemple, effectivement, tout ce que vous dites est vrai, il y a quand même déjà un dérapage, c'est les antimissiles. Il s'est fait prendre au piège, ou plus ou moins au piège du président polonais qui dit un petit peu n'importe quoi et qui a dit « Obama soutient les antimissiles ». 2 heures plus tard, il a été obligé de dire « Non, je ne soutiens pas les antimissiles, je ne me suis pas prononcé ». Et ça fait déjà une polémique qui arrive au niveau du Pentagone. Il y a eu des déclarations du général Obering qui commande un missile Defense Agency, qui est un vrai de vrai nucrasé, etc., qui en plus est dans 5 jours à la retraite, donc il peut dire ce qu'il a dit, et qui a traité les gens d'Obama de comiques qui connaissent rien aux antimissiles, de qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'est-ce qu'ils vont décider. Vous avez déjà une tension palpable entre tous ces gens et entre l'équipe d'Obama. Déjà, vous l'avez. Quelles que soient les nominations. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que les Israéliens joueront pas un jeu différent de celui qu'ils ont joué. S'ils ont la ministre des Affaires étrangères qui devient Premier ministre.
On peut même imaginer, c'est comme ça qu'on peut aussi interpréter la nomination de Rahm Emanuel, donc qui est obsédé par le conflit israélo-palestinien et donc le soutien inconditionnel à Israël. On peut même imaginer que signifie que l'Amérique oriente sa politique étrangère sur la partie proche-orientale et du Golfe, quitte à desserrer un peu les trains sur la Russie, par exemple.
Ah oui, ce
seul signe pourrait être celui-là, entre... Alors on dit que l'écurie Rahm Emanuel, proche-orientale, est opposée à l'écurie Brzezinski, qui elle est très centrée sur le containment de la Russie. Aujourd'hui, les premières nominations, mais il n'y en a qu'une, alors c'est difficile de faire une généralité ou de tirer une tendance avec une ou deux nominations, mais c'est vrai que ce que vous dites sur la crise des missiles... est passionnante. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que Nicolas Sarkozy est rentré.
D'ailleurs,
vous avez publié le 15 novembre dernier une note tout à fait stimulante intitulée Sarko sur la brèche, Medvedev en bandoulière, où vous adressez un bravo l'artiste à Nicolas Sarkozy, sachant que vous n'avez jamais ménagé Nicolas Sarkozy sur le site. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce revirement?
Écoutez, j'ai une théorie, j'aime bien les théories, j'ai virtualisme, j'ai une autre théorie. Pour moi, Sarkozy, c'est l'homme politique postmoderne. Il est venu à maturité alors que l'histoire était finie, comme nous avait dit, j'oublie son nom.
Fukuyama.
Voilà, Fukuyama. Donc, il n'était pas nécessaire pour lui de penser, il n'était pas nécessaire pour lui d'avoir une conviction. La conviction était faite. C'est donc et je pense qu'Obama est du même style. Ce sont des hommes politiques qui ont compris qu'il n'était plus nécessaire de penser, mais qu'il fallait agir. Et ils agissent très bien. Donc, Sarkozy est arrivé en vous disant le libéralisme, je vais agir dans ce sens-là, c'est la réforme. Et puis, le libéralisme, faut bien reconnaître qu'il s'effondre. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend le cheval évident, qui lui est d'ailleurs suggéré par certains. On sait bien qu'il y a des conseillers qui sont proches, on les connaît, qui ont des orientations très, très françaises, très souverainistes. Il a pris cette autre orientation parce qu'elle est évidente. Devant le système qui s'effondre, il est fabuleux de plaider un certain protectionnisme, un certain interventionnisme. On obtient des bravos partout et il réussit. Donc, si vous voulez, il le fait Simplement, la chose importante, c'est qu'il fait quelque chose qui a énormément de légitimité. Et c'est pour ça qu'il devient fort. C'est-à-dire qu'il acquiert une légitimité qu'il n'avait pas au départ. Il acquiert une légitimité parce qu'il soutient des causes qui ont elles-mêmes une légitimité. Si vous voulez, Sarkozy, maintenant, c'est un tacticien qui arrive à faire des choses stratégiques grâce à sa tactique. Parce que les buts qu'il poursuit deviennent stratégiques. Donc, le personnage, il est ce qu'il est. Il n'empêche qu'il a un abattage fabuleux, qui lance des pavés que personne ne voit venir. C'est la bête noire de la Commission européenne, je peux vous dire. Il terrorise la Commission européenne parce qu'on se demande qu'est-ce que va faire Sarkozy, qu'est-ce que va proposer Sarkozy demain matin. Il les terrorise. Et les gens d'Obama eux-mêmes suivent Sarkozy avec intérêt parce qu'ils trouvent quand même qu'il arrive à faire des trucs incroyables pour les moyens dont il dispose en théorie.
Avec, et je suis bien d'accord avec vous, avec en plus, comme Obama, un sens de la situation qui lui fait s'accaparer les postures d'arbitre en toutes circonstances.
Ouais, médiateur entre les Russes et les Américains.
Exactement. Voilà. Et le voilà aujourd'hui, dans la foulée du sommet UE-Russie de Nice, en amont du fameux G20 de Washington, le voilà, médiateur, pour lancer un appel commun. À la fois à Moscou et à Washington pour qu'il gèle tout déploiement de missiles sur la scène européenne. Moyennant quoi, les Polonais et les Tchèques lui ont rappelé que, enfin, c'est, les Polonais et les Tchèques, c'est eux qui décident comment ils s'organisent, avec qui et quand ils le voulaient. Alors, déjà, quand il dit oui, c'est vrai, vous êtes souverain, on n'a pas oublié.
Mais, enfin, quand même, les gars.
Pensez-y quand même, hein. Donc, il y a effectivement, je partage tout ce que vous dites, avec en plus ce côté bête de scène qui fait que, et on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire géorgienne, hein, et on a fait quasiment une émission complète sur le sujet, c'était notre émission de septembre, où, alors, du coup, la vraie question, c'est, tant sur l'affaire géorgienne que sur cette affaire de missiles, Nicolas Sarkozy sert objectivement les intérêts de la Russie, il les sert faiblement, mais il les sert objectivement. Est-ce un choix? Est-ce une conséquence assumée? Est-ce une conséquence perçue au début? Ça, c'est plus flou. C'est
non,
plus
moi,
flou.
Je crois qu'il sert les intérêts. C'est un peu comme les pôles qui s'attirent. La Russie, dans l'espace où nous vivons, la Russie est avec la France le pays qui a la plus forte conscience de ce que c'est que la souveraineté et l'identité nationale. Et la France a naturellement une proximité vers la Russie. En se rapprochant de la Russie, il consolide la notion d'État à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire qu'il renforce la position de la France en Europe. Je dis pas qu'il y a ce calcul. Ça m'intéresse pas, le calcul des gens. Moi, ce que je vois, c'est le résultat. Et là, vraiment, la France est incroyablement gagnante. L'autorité de la France aujourd'hui à Bruxelles, c'est à Bruxelles que ça compte, parce que bon, on s'entend avec les Russes, mais c'est à Bruxelles que ça compte. Elle est incontestable, incontestable.
Mais alors, le côté médiateur que vous attribuez donc à Nicolas Sarkozy, il est quand même en décalage par rapport à sa décision du retour de la France dans les structures de l'OTAN. Comment on peut...
Oui, bon, bah, il a décidé parce qu'au départ, il était libéral, il était pro-américain au départ. C'est à mourir de rire quand on entend Sarkozy vous expliquer pourquoi il est pro-américain, parce qu'à part Disneyland, etc., enfin bref, il nous a dit des tas de choses comme ça. Un pro-américain... Bling bling, quoi, post-moderne. Il sait pas ce que c'est. Bon, il était pro-américain. Et pro-américain, il est entré dans
l'OTAN. Il était pro-américain parce qu'il était anti-chiraquien.
Oui, par exemple, si vous voulez, là, vous êtes pas vraiment sympa. Parce que je me demande si Chirac n'était pas un peu pro-américain. Tous les Français sont un peu pro-américains. De Gaulle a dit qu'il aimait beaucoup les Américains. Et moi, je les aime bien, d'ailleurs. Alors, après tout. Mais, je pense que l'OTAN, au départ, c'est un bon coup des militaires français, parce que l'OTAN, ça signifie X postes des militaires, où on est vraiment bien, où on est généraux, etc. Je crois qu'il y a une notion corporatiste hein, là-dedans. Hein. D'autre part, deuxièmement, ça mange pas de pain, parce que la France, elle est complètement, presque complètement rentrée dans l'OTAN, donc pourquoi pas. Troisièmement, moi je vous signale, après les derniers échos que j'ai eus, c'est que la France, actuellement... À l'OTAN, elle se conduit en roi de la bataille. Roi de la bataille. La préparation du sommet de Strasbourg, j'ai un ami qui est à l'OTAN, il m'a dit, c'est hallucinant. Les Français et les Allemands arrangent tout, les Américains ne disent rien. Autrement dit, vous avez la France de Sarkozy. Et si la France entre dans l'OTAN, elle pourra peut-être dire un jour, bon, les antimissiles, moi je vote contre. C'est-à-dire, avoir un Français comme Sarkozy à l'intérieur de l'OTAN, je ne sais pas qui c'est qui va le plus souffrir. C'est pas marrant. Ils y sont. Mais ils, d'autre part, ils y sont déjà.
Oui, c'est ce qu'on a vu à Bucarest, hein, ce qu'on a vu à Bucarest avec la décision de Kiasa. Il y a le fait, quand on dit, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est une, il y a aussi un enjeu corporatiste pour les militaires français, que l'OTAN, c'est aussi un système où on a des budgets pour faire joujou. Et le militaire, il faut lui donner 3-4 médailles de commémorative, il faut quand même lui donner des jouets pour faire joujou. Parce que le militaire, il faut qu'il fasse joujou. Et donc à l'OTAN, c'est sans doute suite à ce rapprochement de l'OTAN qu'on a une loi de programmation militaire qui s'en sort pas si mal avec les contraintes budgétaires qui sont celles de la France. Et enfin, on peut rappeler qu'une bonne partie, de toute façon, du matériel militaire français est sur des compatibilités de normes OTAN. Aujourd'hui, la bataille des normes qui joue pour les exportations de pommes de terre et de tomates, elle joue aussi pour les systèmes d'interconnexion et de transmission des matériels militaires. Et donc, l'ensemble du matériel français est compatible normes OTAN. Donc, on l'est de facto, absolument. Donc, autant bénéficier des fruits. Des juteux fruits et des joujoux intéressants, les fameux postes. On a vu d'ailleurs ces articles sur les fameux postes que la France qui rallierait l'OTAN, ce serait autant de postes de d'officiers, de traducteurs, de d'agents de liaison, d'interprètes. Enfin bref, là des carrières somptueuses.
Alors, avant de terminer cette première demi-heure sur ces sujets d'actualité qui sont effectivement, et je demande et j'exige même que les auditeurs de Radio Courtoisie aillent sur votre site, parce que je pense que c'est peut-être l'un des sites les plus intéressants, en tout cas en langue française, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et justement, en parlant de votre site, quels sont premièrement les moyens de vous aider et comment vous financez tout ce travail-là? Parce que c'est quand même
Au départ, c'est la revue, hein, la revue, la newsletter qui gagne l'argent de la famille. Donc le site, c'est la danseuse de la newsletter. Du coup, bon, ben parfois elle crie un peu famine. Alors je me suis dit que j'allais faire comme les Américains, qui réussissent bien parfois, et j'allais faire des campagnes d'appel à donation. J'ai commencé depuis un an et demi, les résultats ont été contrastés, et je peux vous annoncer que le dernier résultat, c'est la crise. Hein. C'est vraiment la crise, parce que vraiment, on n'a jamais été aussi bas. Ça, mais je comprends, c'est la crise. Donc voilà comment on fait, voilà comment on essaye de progresser. C'est un pari. Je sais pas si la rue est tenue, mais il faut effectivement, à partir d'un certain moment, surtout quand on a un site comme ça, et finalement, on s'aperçoit que peu à peu, ça coûte de plus en plus d'argent, il faut à un moment essayer de faire entrer un moyen de financement ou l'autre. On a essayé ça, je sais pas si on pourra continuer longtemps, alors à ce moment-là, il faudra peut-être chercher d'autres solutions, je voudrais éviter la publicité, mais voilà. Donc, voilà où on en est.
Donc, si on va sur votre site, il y a des moyens de pouvoir donner.
Et comment?
Vous verrez,
c'est parfait. On prend par la main tout.
On va rappeler l'adresse qui est de Defensa, defensa.org. C'est vraiment très simple et vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir aider Philippe Grasset. Et on en parlait tout à l'heure, c'est que vous disiez qu'aux États-Unis, ce genre de site avait des moyens et arrivait à trouver des moyens colossaux en faisant simplement des demandes tout bêtement, comme nous on essaye de le faire aussi sur Radio Courtoisie. Hein.
Non, on pourrait un jour, ça a déjà été fait ou par d'autres, mais on sait très bien que l'accueil tout simplement du grand public et des relais que sont les entreprises des simples questions de géopolitique, de la matière elle-même, avant même d'imaginer qu'elle puisse être les inclinations de tel ou tel, l'accueil même de cette science n'est pas la même de ces deux cas entre des deux côtés de l'Atlantique.
Ouais.
Bon, nous allons faire peut-être une petite pause et rappeler que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie dans le libre journal de la nuit de la vieille Europe. Notre invité est le journaliste Philippe Grasset, responsable du site de defensa.org. Nous allons voir avec lui dans cette seconde partie son actualité, son dernier livre sur Verdun. En attendant, on va faire cette petite pause musicale, le temps de reprendre notre souffle, hein, tout simplement. Après ce moment musical court mais intense, nous retrouvons notre invité Philippe Grasset pour parler cette fois-ci de son dernier livre sur la guerre de 14-18, Les âmes de Verdun. Alors Lucien Valdès, éclairez-nous sur ce livre et surtout sur cette thèse, La victoire de l'homme sur la ferraille.
Oui. Alors Philippe Grasset, donc à côté de vos activités d'analyse géopolitique que nous avons vues dans la première demi-heure, vous êtes aussi un écrivain et vous nous donnez donc en ces temps de commémoration un superbe album photographique intitulé Les âmes de Verdun, paru aux éditions Mols. Il s'agit d'une nouvelle appréciation de la bataille de Verdun, assez inédite, je crois.
C'est pas que des photos, Lucien Valdès, ça, quand même. Il y a du texte intense.
Bah oui. Et donc, cette nouvelle appréciation, cette thèse, nouvelle thèse de la bataille de Verdun, inédite, donc vous avez faites donc lors de visites que vous avez effectuées sur place. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous qui avez la tête dans l'actualité, à vous retourner sur cette bataille sur laquelle on a quand même beaucoup écrit?
Bah parce qu'elle est complètement d'actualité. Alors
d'actualité.
Elle est complètement d'actualité. C'est justement le fondement de la chose qui est intéressant. En fait, ce qui m'a poussé, il y a plusieurs choses. D'abord, vous me dites que je vous ai donné, que j'ai écrit. Non, c'est un livre qui a été fait. Il y a deux photographes et il y a toute une bande d'amis qui a été sur Verdun. Et en deux visites, ces gens qui venaient de lieux différents, certains qui se connaissaient très bien, d'autres qui ne se connaissaient pas, ont rencontré un sentiment commun qui est un sentiment qui leur a été révélé par le site de Verdun, qui a quelque chose d'absolument transcendantal, à la fois de tragique et à la fois d'absolument serein. Et il y a donc une démarche qui est une démarche très 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 humaine, qui concerne plusieurs personnes d'une même époque et qui ont ressenti la même chose. Alors moi, là-dedans, qu'est-ce que je suis? Je travaille depuis des années sur l'actualité, mais aussi l'histoire m'a toujours intéressé, et j'ai toujours eu une inclination pour la Grande Guerre. J'ai toujours pensé qu'on faisait pas justice à la Grande Guerre quant à son importance. On a toujours étouffé la Grande Guerre sous des mots d'une guerre absurde, une tuerie générale, etc., sans vouloir chercher plus loin ce qu'elle signifiait. Et j'ai toujours eu la sensation, qui est peut-être une intuition, que c'était une guerre beaucoup plus importante qu'on croyait. Si vous voulez, j'ai abordé l'histoire de la Grande Guerre, pas par la Grande Guerre, mais par ce qui a précédé la Grande Guerre, plus d'un point, oui.
Oui, parce que vous commencez votre enquête par ces vers magnifiques, mais qui sont aussi à frémir de grandiloquence. De Charles Péguy, mère, voici vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère, que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus, et qu'ils ont tant aimé.
Curieusement, ces vers n'ont jamais été écrits sous cette forme, parce que ce quatrain est composé de vers de quatrains différents, premièrement. Deuxièmement, ils ont été écrits en 1913, puisque Péguy n'a pas connu la bataille de Verdun, et on dirait qu'ils sont écrits pour la bataille de Verdun. Au fond, ça vous indique que l'enjeu de la bataille de Verdun, il préexiste à la bataille de Verdun, il préexiste à la Grande Guerre. Et quand vous dites que c'est une thèse inédite, en fait, curieusement, depuis que j'ai écrit le bouquin, je suis tombé sur un livre d'un historien italien, Guglielmo Ferrero, qui est mort en 1939, pas un historien, philosophe de l'histoire. Et bon, j'avais beaucoup aimé l'un ou l'autre de ses livres, et je le cite d'ailleurs dans Les âmes de Verdun, et j'avais commandé d'autres bouquins, j'avais laissé sur le côté, puis d'un coup j'en prends un, c'est le génie latin et la modernité. Et cet homme, en 1917, il vous dit exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que la Grande Guerre est une bataille entre le génie latin et la modernité, entre l'idéal de beauté, l'idéal de perfection que représente le génie latin et l'idéal de puissance que représente la modernité à cette époque prise en charge par l'Allemagne. Et la bataille de Verdun est le summum de la chose, parce que elle est abordée, on ne sait pas très bien dans quel but stratégique. En fait, les Allemands ne savent pas très bien. Et à la limite, alors qu'elle aurait pu avoir un but stratégique très important, ils flottent, ils font cette bataille parce qu'il faut faire quelque chose, et ils sont entraînés par ce qui fait leur puissance, c'est-à-dire la ferraille, c'est-à-dire l'artillerie, c'est-à-dire l'avancée de la technologie, c'est-à-dire la pointe du progrès. C'est-à-dire que la pointe du progrès s'abat sur les Français qui sont à Verdun. Et tout se joue vraiment dans les premières heures. C'est-à-dire qu'ils sont submergés par une marée d'obus, on a donné le nom, peu importe, et tous ces types doivent être laminés, crevés, morts, qu'on n'en parle plus, et les Allemands, à partir de là, doivent déboucher, ça se passe le 21 février, le 22 ou le 23, ils doivent déjà déboucher sur Verdun, et surprise, les hommes sont là, les Français sont là, ils sont prêts à se battre, ils se battent, ils repoussent les Allemands. Et c'est le soldat français qui a imposé à l'état-major français de se battre à Verdun et de ne pas reculer d'un centimètre. C'est vraiment le soldat français. C'est donc l'homme contre la ferraille, absolument.
C'est pour ça que vous dites que la bataille de Verdun ne pouvait pas avoir lieu hors de France.
C'est pour ça, et puis c'est pour ça aussi, autrement, parce que la France est un pays particulier, je crois. C'est un pays qui est un pays d'équilibre. C'est quand même le plus beau représentant du génie latin en Europe, la France. Le plus, comment dirais-je, le mieux marié avec toutes les époques que ce pays a traversées. C'est la grande nation. Les Allemands disent la grande nation, avec une ironie un peu jalouse. C'est-à-dire la plus vieille nation, celle qui a ses racines qui vont dans la latinité même. C'est la France, géographiquement, elle est au milieu. Elle marie des choses très différentes, des races très différentes, des ethnies très différentes, des paysages très différents. Et elle tient le tout. Elle est pas conquérante. La France n'est pas conquérante, sauf des épisodes qui sont des épisodes très très particuliers, comme Napoléon, la Révolution française, Napoléon, qui est un épisode très très particulier. Et finalement, on peut se demander s'il est très français. À part ça, la France est un pays d'équilibre, est un pays de mesure. Le jardin à la française, vous savez bien comment il est. L'architecture française, on sait bien comment elle est. Et ainsi de suite. Et donc, la France est au fond, à mon sens, le pays qui face à la volonté de puissance de la ferraille et de la modernité est le seul qui soit capable de résister comme il a résisté. Et c'est pour ça que je dis que ça ne pouvait se passer que sur le royaume de France. Excusez-moi, alors là, vous savez pas ça.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi le fait que l'historiographie anglo-saxonne a toujours ou très rapidement réduit le rôle français dans la Grande Guerre?
Ça, dans la Grande Guerre, les Anglais ont un rôle très ambigu, comme toujours avec les Anglais. Ils ont toujours un pied à droite, un pied à gauche, une main dans une poche, c'est très anglais. D'un côté, ils sont concurrents des Allemands, parce que les Allemands les ont détrônés comme puissance majeure de la modernité. Entre 1900 et 1914, l'Allemagne est le modèle du monde, alors que jusqu'ici, c'était l'Angleterre. Donc, il y a une concurrence entre les Anglais et les Allemands. Mais les Anglais ne sont pas vraiment adversaires des Allemands. À la limite, dès que la guerre va être gagnée, ils vont tout de suite avoir une attitude différente. Ils vont être beaucoup plus pour une réconciliation et surtout pour empêcher que la réconciliation entre les Français et les Allemands se fasse. Alors ça, je vous parle des Anglais. Les Américains ont un rôle encore différent. Les Américains sont les successeurs des Allemands.
Voilà.
Le pan-germanisme va avoir comme successeur le pan-américanisme. Et ce sont des pan-expansionnistes, c'est-à-dire des expansionnistes totaux, qui ont besoin de tout, au niveau culturel, au niveau psychologique, etc. Tout doit être absorbé par cet expansionnisme. C'était le cas du pan-germanisme, et c'est ensuite le cas du pan-américanisme, dès 1919-1920.
Pardonnez-moi de vous couper sur ce point-là, je ne suis pas tellement d'accord. Je pense que le pan-germanisme vise à l'expansion à l'intérieur d'un espace délimité par la notion de germanisme, ce qui n'est pas le cas de l'impérialisme américain.
Je pense que c'est ce que disent les Allemands. Moi, je donne mon interprétation telle que je la ressens. C'est-à-dire que je ressens chez les Allemands et chez les Américains, quand ils se montrent expansionnistes comme je le sens, un malaise. C'est pas une question géographique, hein. C'est une question, je dirais que c'est une question d'âme. L'Allemagne n'a jamais trouvé ses véritables limites géographiques. L'Amérique non plus. L'Amérique, dès le départ, elle part vers l'ouest, et puis après, elle part à droite, à gauche, tous les côtés. Ce sont des puissances, c'est la modernité. La modernité, c'est quelque chose qui part de rien, de la machine à vapeur, qui est inventée à la fin du XVIIIe siècle, et qui va conquérir le monde. Et l'Allemagne, c'est un gaz. Bon, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est au départ? C'est la Prusse. Et puis après, c'est autre chose. Et où est-ce que ça s'arrête? Ah oui, on a un espace vital. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace vital? C'est comme ça que je les vois. Alors, leurs limites géographiques, je dirais, pour moi, c'est des faux masques. C'est des faux masques pour quelque chose dont ils ont besoin, pour un malaise. L'Allemagne entre 1900 et 1914, c'est un malaise absolu. C'est une puissance absolue. C'est une chaudière au centre de l'Europe. Et pourtant, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas vers où aller, mais il faut qu'ils aillent quelque part. L'Amérique, c'est la même chose. L'Amérique, c'est la même. C'est une bête déchaînée. Mais une bête qui ne sait pas pourquoi elle, où elle, alors elle vous donne des objectifs, mais ce sont des objectifs de circonstances. Quand je dis pan expansionniste, je dis un malaise psychologique fondamental qui est né du besoin de puissance. Ce à quoi oppose la France? La France oppose le besoin de perfection. Et le besoin de perfection moyenne, milieu.
Mais, est-ce que tout simplement la chaudière allemande de 1900 à 1914, c'est aussi les conséquences d'une vitalité démographique extraordinaire?
Il y a
de la même manière que la vitalité démographique extraordinaire de la France de la fin du XIIIe siècle a déclenché Napoléon. Et donc, est-ce que, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas plus simple peut-être de constater qu'à des vitalités démographiques nécessitent sur des volontés expansionnistes, des volontés de puissance, sans forcément théoriser une notion d'espace vital, mais est-ce que c'est pas tout simplement ça?
Moi, je crois pas que la vitalité démographique de la Chine ait déclenché des invasions de la Chine. Je crois que c'est un pays qui est très bien comme il est, qui a une vitalité fabuleuse. Il y a vous placez la vitalité comme cause, moi je la place comme conséquence. Bon, c'est un point de vue, je pense qu'on peut débattre longtemps comme ça, mais moi je le place à l'intérieur d'un système, parce que l'Allemagne n'est pas simplement définie par la vitalité. Il y a un livre qui est fabuleux, qui est de Modris Eckstein, qui s'appelle « Le Sacre du printemps », qui décrit l'Allemagne entre 1900 et 1914, et qui l'a décrit du point de vue... jusqu'en 1945, mais la période 1900-1914 et la guerre est absolument... très impressionnante, qui vous décrit une Allemagne qu'on a l'habitude de voir comme l'empire de Guillaume II, conservateur, prussien, gna, totalement chevelé, totalement fou, avec des fous, avec d'art, qui explose dans tous les sens, et Eckstein donne une image de l'Allemagne qui part à la guerre, où la guerre devient l'accomplissement de soi. Sur le son du Sacre du Printemps, qui a été créé à Berlin en 1913, qui est une musique païenne par excellence de renouvellement de soi. Il y a vraiment autre chose qu'une vitalité là-dedans. Il y a un déséquilibre psychologique, il y a un... L'expansion n'est pas quelque chose qui se monnaie, l'expansion c'est quelque chose qui explose. Or, il y a des pays qui ont des vitalités démographiques qui n'ont pas explosé comme ça. L'aventure napoléonienne, c'est la révolution qui l'a déclenchée. C'est pas la démographie française. Je pense que c'est la révolution et c'est l'idée révolutionnaire du peuple en armes. L'idée révolutionnaire du peuple en armes, c'est une guerre très très particulière que la France a introduite, qui est la guerre totale. Et c'est ça qui a été le moteur napoléonien. Donc voilà. Donc on diffère, mais je sais pas qui a raison. Vous voyez ce que je veux dire.
Alors, je voudrais en revenir sur le livre, Les âmes verdun.
Oui,
exactement. Parmi les paradoxes insolites que vous mettez à jour, il y a celui Il y a celui de la Belgique, qui fut, dites-vous, créé pour assurer la stabilité et la paix de l'Europe, et qui pourtant à deux reprises fut utilisé donc par les Allemands pour attaquer. Est-ce que derrière tout ça, vous voulez nous dire que la Belgique doit devenir française pour remédier à ces assez traîtrise.
Oh, je ne veux rien vous dire. Je...
Lucien Valdez, là, vous allez loin.
Je ne veux rien vous dire, là, du tout. De rien, j'en sais rien. Et je me demande qui c'est qui peut savoir quoi que ce soit.
C'est pas parce que la Belgique sera française, mon cher Lucien, que franchir la Meuse sera plus pratique ici plutôt qu'à Sedan.
Oui, c'est bien. Il y a peut-être raison. Et peut-être qu'ils franchiront plus vite. En fait, moi, je suis en train de lire les mémoires de Talleyrand. Et en 1831, quand il négociait l'histoire de la Belgique, c'était le plus fabuleux casus belli. Talleyrand écrivait à Paris à tous les jours, soutenez absolument une Belgique indépendante. Si vous faites un rattachement de la Belgique à la France, c'est un casus belli. Toutes les autres puissances vont tomber sur la France. Donc la Belgique a été vraiment créée comme un tampon. Les Belges ont la sensation d'avoir été créés pour ça, d'avoir joué un rôle important dans la diplomatie, dans l'équilibre de l'Europe. Et ils ont été effectivement deux fois violés. Et l'explication de la vulnérabilité de la ligne Maginot tient pour l'essentiel à ça, c'est-à-dire que les Français n'ont pas continué sur la frontière belge parce qu'ils étaient diplomatiquement pas ennemis des Belges et qu'ils pouvaient pas faire une ligne de défense entre la Belgique et la France. Et les Allemands ont tourné la ligne Maginot, ils l'ont pas percée. Donc ça a imposé la Belgique à démontrer son incapacité à être ce qu'elle devait être au départ. Elle s'est ensuite reconvertie en un centre anti-soviétique parce qu'elle est devenue un pion important de l'OTAN à partir de 1945. Là, elle a montré son utilité. Et puis bon, maintenant il n'y a plus d'Union soviétique, et je pense que les tourments qu'elle connaît tiennent à son inutilité totale en Europe. Elle ne sert à rien. Alors, quant à vous dire qu'elle soit rattachée à la France, c'est complètement absurde, et pourtant, si la Belgique éclate, il n'y a pas d'autre solution. La Wallonie sera attirée par la France. C'est phénoménal, c'est absurde, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je n'imagine pas une Belgique éclatante, c'est-à-dire d'un côté la Flandre, hein, qui deviendra indépendante, qui se dira moi toute seule je vais être très fort, et de l'autre la Wallonie. Je n'imagine pas une Wallonie qui ne demande pas le rattachement à la France. C'est vraiment, moi je trouve ça complètement absurde, mais je n'arrive pas à imaginer qu'il fasse. Les Wallons sont comme ça, la France est pour la Belgique, c'est une espèce de passion. C'est une espèce de passion. Alors que les Allemands les emmerdent, alors que les Hollandais leur font des coups en vache et que les Anglais les tiennent vraiment très serrés et les ennuient aussi, la France, c'est la fascination de la Belgique. Mais même des Flamands, hein, même des Flamands, contrairement à ce qu'on... La France est une fascination pour tous ses voisins, et elle l'est aussi pour la Wallonie. Bien que, effectivement, si la Belgique éclatait, c'est vrai qu'il pourrait très bien... Je pense qu'il demanderait leur rattachement. Ça, c'est curieux.
Et puis, probablement, au moment où cet éclatement se produira, s'il vient à se produire, il se trouvera forcément un chef d'État en France qui sera tout content de redonner à son peuple une esquisse de grandeur sur le thème, voyez, regardez.
Non, Sarkozy s'imposera comme médiateur entre Flamand et Wallon. Voilà, il faut bien être médiateur.
Il y a dans votre livre, Les âmes de Verdun, paru donc aux éditions Mols, et malgré donc son thème, la Grande Guerre, des passages pleins d'espoir sur l'Europe. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'un d'entre eux, où vous écrivez « Déconstruire Verdun, reconstruire Verdun en l'insérant dans la tragédie d'aujourd'hui comme il a fait la tragédie d'hier pour conclure enfin, bien entendu, que c'est la même tragédie.
Bah, » Écoutez, pour moi, Verdun, la Grande Guerre, c'est le premier paroxysme de la crise de la modernité. Nous sommes aujourd'hui dans un autre paroxysme de la crise de la modernité, et je me demande bien si c'est pas le dernier. Il y a une correspondance. Pour ça, je vous dis que c'est complètement d'actualité, Verdun. C'est exactement la même crise. strictement la même crise. Et c'est un paroxysme différent, mais aussi fort qu'on vit aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a, dans le fait que ce paroxysme-là se soit trouvé en Europe, c'est-à-dire qu'il y ait eu quelque chose en Europe qui ait résisté à la ferraille, comme on dit, c'est horrible pour le résultat, mais c'est aussi quelque chose d'un espoir. Et s'il y a une partie du monde qui peut comprendre le danger de la modernité et s'y opposer, aujourd'hui, c'est l'Europe et c'est la France. C'est pour ça que Sarkozy est médiateur. Non, je ris pas, je ris, mais c'est vrai. C'est vrai, la France a quelque chose de fondamentalement... elle comprend fondamentalement le problème que pose la modernité.
Comme la Russie, ce que vous disiez.
Comme la Russie, oui. Comme la Russie. Une question d'armes, c'est une question de vieille nation. Et donc, bon, à partir du moment où la thèse est que quelque chose a résisté à la ferraille à Verdun, eh bien, c'est la même chose qu'aujourd'hui, et c'est un peu d'espoir. Donc, je m'oppose absolument, par exemple, à tous les gens qui vont à Verdun et qui vous disent « ça n'a aucun sens, c'est affreux, tous ces morts ». Toutes les guerres sont affreuses. Tous ceux qui disent ça peuvent aussi bien aller voir Hiroshima le 10 août 1945. Qu'est-ce qu'ils diront ? C'est affreux, la guerre. Là, ça a un sens. Ah, pardon. J'étais loin du micro.
Et là-dessus, c'est vrai que la thèse est originale, parce que on a plutôt une tendance à dire, et depuis très longtemps, que c'est quasiment... 14-18 a été une boucherie, une guerre civile, et ça a été la fin de l'Europe. Pour vous, ça représente... C'est dans la tradition de l'Europe d'en arriver même jusqu'à là.
Mais c'est pas dans la tradition de l'Europe, c'est dans la tradition de la modernité, nuance. Hein. Bon, c'est dans la tradition de l'Europe de résister à la modernité, si tant est qu'on ait l'image que j'ai de la modernité, jusque j'ai compris à cette sorte de sacrifice. Ça oui, c'est dans la tradition de l'Europe. Alors, si la guerre est horrible, si la guerre est atroce, c'est pas de la faute de l'Europe, c'est de la faute de la ferraille. Vous remplacez l'artillerie par celle qu'il y avait en 1750, par exemple, ben, vous avez 2000 morts pendant la bataille de Verdun, puis c'est tout. Tandis que là, vous en avez 300 000. Je veux dire, les morts de la Grande Guerre ne démontrent pas l'absurdité de la Grande Guerre, mais elles démontrent l'absurdité de l'emploi de la technologie dans la guerre. Et la technologie, c'est le progrès. Merci, monsieur le progrès. Voilà ce qu'on peut sortir comme conclusion de la Grande Guerre. Et d'Hiroshima aussi, hein, bien entendu.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur... parce que ça n'est pas qu'un livre à thèse, j'allais dire. C'est aussi un livre de photographie.
Ouais.
Et j'aurais aimé que vous nous...
Alors, c'est le problème de la radio, parliez. Ça.
Oui.
On peut pas... Il va falloir,
avec des mots, peut-être, Philippe Grasset pourra peut-être nous parler de comment ont-ils travaillé, comment...
Ça, c'est assez mystérieux parce que finalement, on a tous ressenti la même chose, mais on n'a pas vraiment parlé pour dire ce qu'on avait ressenti ou comment on avait ressenti.
C'est un travail avec deux photographes, hein, c'est
oui, ça ? Alors ce qui était assez drôle finalement, c'est qu'on était tous ensemble le matin, on mangeait ensemble, petit déjeuner, etc. Olivier était là, puis voilà, on était tous... Et puis on partait, puis on se séparait plus ou moins, soit en groupe, soit pas en groupe, soit certains solitaires, soit certains pas solitaires. Et puis c'est assez drôle parce qu'on passait la matinée comme ça, puis de temps en temps on se croisait comme si on était dans le même village. Tiens, bonjour, bonjour. Et je pense que les photographes sont partis tout seuls à l'aventure et que ils sont imprégnés de la chose. Ils sont imprégnés de la chose. Il faut s'imprégner de Verdun, de ce que c'est, du poids de ses âmes, de la beauté reconstituée à partir de l'horreur qu'on imagine que c'était, de faire la synthèse de tout ça et de vous dire que ça mérite quand même d'être célébré malgré tout, ben vous arrivez à leurs photos. Leurs photos parlent et disent des choses qu'il est impossible de dire en texte, de dire en chanson, ni rien de ceci. C'est vraiment un apport fondamental.
Non. C'est des photographies de Bernard Plossu et de Michel Castermans.
C'est ça, oui.
Voilà.
Nos braves amis.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des photos actuelles qui ont été prises et qu'on ne tombe pas dans ces livres de 14-18. On montre des clichés qui, en fait, même souvent sont des clichés de propagande. Sur 14-18, il n'y a pas
un poilu.
Il n'y a pas un poilu.
Il y a une photo de Pétain et Joffre, oui. Parce que c'est drôle, mais on voit bien que c'est une photo. Hein,
voilà.
C'est pas du tout. Hein.
Et c'est une très belle photo.
D'ailleurs,
en
j'aurais aimé avoir votre avis sur. Sur les commémorations, sur cette maladie de la commémoration, ouais. Est-ce que et notamment donc à propos de Verdun, des commémorations du 11 novembre qu'on vient de célébrer. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les faire? Qu'est-ce que...
Je sais vraiment pas répondre. Là comme elles sont, là quand vous me posez la question, je vais faire une moue d'égout et dire que je vais me foutre de ça, c'est absolument absurde et ridicule. Et pourtant ça donne quelque chose comme Verdun, qui le champ de bataille de Verdun. Vous savez, au départ, c'était assez drôle parce que il y avait les officiels qui, en 1920-21-22, il y avait les officiels qui venaient commémorer sur la ville de Verdun, et puis les poilus qui venaient commémorer ça sur le champ de bataille. Mais donc leur commémoration a quelque chose de pompeux, etc. Tout ce qu'on veut, chercher tous les qualificatifs méprisants, ils sont bons. Et à côté de ça, le même système est capable quand même d'enfanter des choses qui sont presque des miracles historiques, comme la façon dont est conservé le domaine de Verdun. Alors, je peux pas vous expliquer. C'est comme ça, on constate, effectivement, ça me viendrait pas à l'idée d'aller serrer des cuillères à 25 types avec des comme ça, là, devant un pot, dans la... complètement absurde. Et puis, quand vous allez à Verdun, sur le champ de bataille, vous dites, mon Dieu, merci qu'on ait fait ça. Voilà. Alors, faites votre choix, moi, je sais pas. Moi, je peux pas trancher, c'est comme ça.
Écoutez, merci à vous Philippe Grasset. On va peut-être revenir sur d'abord premièrement le livre, Lucien Valdès, vous allez nous rappeler les références, on va rappeler aussi les références du site de Des Défenseurs. On vous écoute.
Donc le livre de Philippe Grasset avec les photographies donc de Bernard Plossu et Michel Castermans s'intitule Les âmes de Verdun, la victoire de l'homme sur la ferraille. Il est édité aux éditions Mols. Les éditions Mols.
L'adresse. C'est des éditions belges, donc on ne va pas trouver forcément facilement, mais enfin, vous allez nous donner la solution.
Non, tout à fait facilement.
Pour trouver.
Puisqu'il y a un site internet.
Il y a 19 Thalys par jour, hein. On doit pouvoir y arriver quand même. Hein.
Ils sont pleins. Hein.
Et ils vont jusqu'à là. Liège.
Exactement, jusqu'en Inde.
Avec une nouvelle gare.
Le site internet, les âmes de Verdun.com, tout attaché, donc www.lesamesdeverdun.com. L'adresse des éditions Mols, c'est 67 Tienne, TIE2NE, de la petite Bilande, BILANDE, 1300 Vavre, WAVRE, Belgique.
Dites Wavre. Ça Wavre. Fera plaisir parce que je vais parier avec l'éditeur que les Français étaient capables de dire Wavre et vous dites Vavre. Il m'a dit, mais non, les Français dites Vavre. Mais non, mais éclat de rire, il a raison. Wavre.
Il a dit, donc Wavre. Donc à Wavre.
Merci. La prochaine fois, on t'enverra à Woluwe.
Voilà. Merci Wavre à vous, Philippe Grasset. Nous allons passer à notre troisième partie. Si vous voulez rester avec nous, il n'y a aucun problème. On en a encore pour une petite demi-heure, mais avec surtout, c'est Philippe Christel, le chroniqueur qui est quand même le plus brillant de sa génération, qui nous fera une joie de nous parler, bien sûr, de l'actualité russe. Nous parlerons aussi de culture, d'économie, le livre, enfin, nos deux livres, et enfin, nos sélections subjectives de l'actualité. Mais avant, on va reprendre un petit intermède musical pour laisser Philippe Christel se préparer. Non, chers auditeurs, ne changez pas de fréquence, restez sur Radio Courtoisie, car nous allons avoir le plaisir d'entendre maintenant Philippe Christel, qui nous a décortiqué l'actualité européenne, une actualité riche en ce mois de novembre, mon cher Philippe.
Oui, je voulais effectivement parler un petit peu de la Russie, et puis en fait je vais pas le faire parce qu'on a un peu défloré le sujet tout à l'heure, on a abordé le principal, à savoir l'offensive diplomatique du président Medvedev sur la question des missiles, et puis l'irruption, comme d'habitude, de notre bon vieux président Sarkozy. On va bientôt en parler comme le petit père Sarkozy dans le débat, donc je vais pas revenir sur le sujet. Il y a un sujet quand même que je voulais développer rapidement, c'est celui des fonds souverains. On a eu l'occasion très régulièrement dans nos émissions de parler de la menace des différents fonds souverains. Et puis on a vu à l'occasion de cette crise économique que Nicolas Sarkozy, encore lui, toujours lui, à l'occasion de sa visite au Parlement européen le 22 octobre, il a lancé l'idée d'avoir des fonds souverains en Europe. Je rappelle le principe d'un fonds souverain, c'est donc ce sont des sommes considérables qui doivent être gérées par les États au bénéfice d'ISE et qui ont vocation à soutenir les entreprises en difficulté, principalement pour faire fructifier l'argent du contribuable ou les fonds qui sont confiés par des institutions financières et y compris privées. Et également pour garantir une certaine proximité avec le pays en question de l'entreprise ou de sa production, ce qui conviendrait à dire, Oresco référence, que les entreprises auraient une nationalité, voire une identité. Oulala, non, je t'ai plus la coupe est pleine.
Donc scandaleux pour l'Europe de
raccourcir. Alors, je vous rassure, oui, effectivement, l'Europe est vigilante, puisque José Manuel Barroso a dit quand même, les fonds souverains, c'était pas très bien. Et que, surtout, ce qui est terrible, c'est que le fonds souverain risquerait d'être synonyme d'un retour au protectionnisme. Ah. Et on voit bien aujourd'hui que y a des dangers qu'il faut savoir conjurer. Il n'y a pas celui de la spéculation, il n'y a pas celui, celui du réchauffement climatique, il y a celui du protectionnisme. Donc Barroso veille au grain. Alors ce qui est intéressant, c'est que notre Sarko national, c'est pas parce que Barroso veille au grain que ça l'empêche d'y aller, et donc est tout à fait déterminé à instruire cet outil de dissuasion financier pour la France. Alors la seule difficulté, c'est qu'en France, comme d'habitude, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas souvent de pétrole. Là, en tout cas, on n'a pas tellement de sous.
On n'a pas d'argent.
Et on n'a pas d'argent. Donc, on n'a pas d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vu plusieurs députés intervenir sur le sujet. On a eu l'inusable Bernard Carayon qui sort un papier dans le Figaro dès lors qu'on parle de souverainisme ou de souveraineté, pardon, plutôt souverainisme, c'est l'autre. On a vu également Michel Bouvard, qui est le député UMP de Savoie, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, puisque c'est elle qui est pressentie pour jouer ce rôle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a un petit peu échappé peut-être au public, mais ce que raconte Carayon, il pointe du doigt le rachat de Pechiney par le groupe Alcan avec, comme synonyme de ce rachat, transfert de technologie, fuite de non pas des emplois, certes des emplois manufacturiers, mais également de la R&D de la France vers le Canada notamment. Il revient sur l'occasion ratée d'avoir construit une entreprise ArcelorMittal pour y avoir préféré une entreprise ArcelorMittal. Et puis, on a vu que la première dotation de ce fonds stratégique d'investissement national va être les fameux 110 millions d'euros. Alors 110 millions d'euros, c'est tout petit. On imagine que c'est une goutte d'eau dans ce que devrait être un fonds souverain. Je vais donner quelques chiffres quand même pour qu'on se trompe pas. Un fonds souverain, les fonds souverains aujourd'hui drainent quelque chose comme 3500 milliards de dollars. Le principal d'entre eux, c'est celui des Émirats Arabes Unis, 875 milliards de dollars. Un fonds de pension norvégien, celui qui gère la rente de pétrole norvégienne, c'est 400 milliards de dollars. Je rappelle qu'on avait dit à ce micro que lorsque l'américain Citigroup et que le suisse UBS ont connu leur premier déboire financier et qu'il a fallu les recapitaliser, le fonds de pension qatariote avait recapitalisé Citigroup en prenant 5% de son capital avec l'équivalent de 15 jours de vente de pétrole. Donc ce qui nous donne une image de la puissance de ces banques-là, donc de ces fonds-là. Aujourd'hui, les 110 millions, c'est quoi? C'est la participation de l'État dans la prochaine augmentation de capital des chantiers de l'Atlantique, devenu STX France. Et donc voilà, la première participation stratégique. On pourrait imaginer qu'il y en ait d'autres. On a vu dans les journaux les différents sous-traitants de l'industrie aéronautique qui sont en difficulté alors même qu'ils conçoivent des pièces de l'Airbus A400M ou de la 380 ou même des pièces de missiles sur le M51 pour MBDA. On espère que on reviendra à cette notion de fonds stratégiques d'investissement national et que ce sera pas juste pour sauver Danone comme ça va être le cas quand tout le monde s'était ému de patriotisme économique.
Juste sur ces fonds, qu'en pense le reste de l'Europe? Sont dubitatifs, les Allemands, rien, aucune réaction.
Les Anglais nous disent que, attention, donc eux, ils ne voient pas le protectionnisme, ils voient une distorsion sur la concurrence. Donc les Anglais, comme ils ont plus d'industrie, c'est assez pratique. Donc dès que quelqu'un d'autre veut défendre la sienne, il gronde. Sur les Allemands, c'est comme d'habitude, c'est un peu plus flou. C'est fait partie des bénéfices ou des ravages de la Grande Coalition. C'est-à-dire que les uns côté Merkel disent que ça fait partie de l'interventionnisme bien connu des services de l'État jacobin français et que nous Allemands nous souhaitons que l'Allemagne reste ouverte aux capitaux du monde entier. Et puis malgré tout, quand la Deutsche Bank a voulu s'ouvrir à un fonds chinois, finalement, on a décliné l'offre. Et puis, Berlin lui-même est en train de durcir sa législation nationale relative aux fonds souverains. On sait notamment qu'une partie de la Deutsche Bahn, qui doit être privatisée, est très, très, très séduisante pour l'acteur russe, l'équivalent de la SNCF russe, dont je n'ai plus l'acronyme en tête. Donc, les Allemands sont, eux aussi, entre deux positions. Donc c'est pratique, parce que qui dit deux positions dit donc un affrontement, donc un médiateur, donc Nicolas Sarkozy, pour plaire à Philippe Grasset.
Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Ensuite, mon cher Philippe.
Voilà, simplement, je voulais un petit clin d'œil quand même sur le Maghreb et la Méditerranée. Donc, on avait cité notre dernière émission ce rapprochement entre la Libye et la Russie avec les accords signés par Gazprom pour l'exploitation de 6 champs pétroliers et gaziers et la reprise par Gazprom de la participation d'ENI, l'italien, dans les principaux gisements libyens. Donc, on se rappelle qu'en avril dernier, Vladimir Poutine, qui était encore président, avait rencontré Kadhafi. On avait annulé 3,5 milliards d'euros de dettes libyennes de l'époque soviétique, moyennant quoi Kadhafi avait promis de signer des contrats commerciaux. Et puis rien ne vient. Donc à Moscou, on tousse gentiment sur le thème « Muammar, tiens ta promesse ». Qu'on ne dise pas « Muammar m'a tué ». Bref, donc la Libye se réveille et propose... Petit coup de tangente, propose l'installation d'une base navale russe sur le territoire libyen.
Ah, c'est bien ça.
Et pourquoi pas le port de Benghazi. Alors, les Russes disent pourquoi pas, ce sont des gens pragmatiques. Puis tout ce qui peut permettre de rééquilibrer la pression pression contre les États-Unis est bon. Et donc, du coup, hasard ou non du calendrier, c'est le navire Piotr Veliki, le croiseur Pierre le Grand, qui vient de se ravitailler dans le port de Benghazi, puisque vous savez que le Piotr Veliki et son escorte vont rejoindre le Venezuela pour des exercices communs dans l'océan Pacifique, au nom bien évidemment de la très célèbre doctrine Monroe revisitée. Voilà. Et alors, non, Lucien Valdez, j'ai une devinette pour vous. Oui. Est-ce que vous savez nous dire quelle va être la prochaine escale après Benghazi pour le Piotr Veliki ?
Toulon, je crois.
Et oui, c'est le port de Toulon.
Alors là, vous êtes un...
C'est le port
de Toulon. Journaliste. C'est dommage, j'en ai pas écouté à Toulon, parce qu'autrement, ça aurait été une belle info pour les Toulonnais qui ne sont peut-être pas au courant de cette arrivée-là.
Donc déjà, ils ont peut-être tellement l'habitude de voir des croiseurs français, puisqu'il n'y en a plus. Donc là, un croiseur russe, ça va les changer de la 7e flotte.
Et c'est le plus gros, d'ailleurs.
C'est le plus beau. Alors, pour rester sur la Méditerranée, alors, ne croyez pas que j'ai rejoint l'Union pour la Méditerranée de... l'éternel président Sarkozy, qui n'aura jamais été autant cité que ce soir. Mais je voulais quand même vous donner des bonnes nouvelles de la démocratie, parce que c'est important de voir la démocratie progresser sur les rivages de la Méditerranée. Donc, le président algérien Bouteflika vient de changer la constitution pour rester au pouvoir et être nommé président à vie. Le président avait un choix difficile à faire entre un référendum populaire ou une ratification par le Parlement. N'écoutant que son courage, le président Bouteflika, qui est un petit peu diminué physiquement, mais certainement pas intellectuellement, a choisi le Parlement. Et pour être sûr de pas se tromper, il a au préalable porté les indemnités des députés et sénateurs à 30 fois le salaire minimum algérien. Alors, c'est pas beaucoup le salaire minimum algérien,
non.
Mais il y a une conjonction quand même de facteurs qui sont importantes. Alors, donc, ça, c'était un premier coup de chapeau à la démocratie, c'est important. Et deuxièmement, pour faire passer la pilule, si j'ose dire, le président Bouteflika n'a pas hésité à flatter les islamistes. Je rappelle que au nom de la stratégie de la réconciliation nationale, on continue de flatter l'islamisme en Algérie, avec des chrétiens condamnés par des peines de prison pour pratique du culte non musulman sans autorisation, avec le Salon international du livre d'Alger, duquel on a exclu les romans critiques envers l'islamisme qui, paraît-il, connaissent un incontestable succès en France, nous dit le Figaro. qui critique littéraire reconnu. Et puis plus sérieusement,
du dernier livre de notre prix Nobel, figurez-vous. J'ai lu ça.
Attendez, qui est prix Nobel déjà? Le camarade Leclésio, c'est ça?
Exactement. Qui a été, on ne sait pourquoi, interdit lors du salon du livre à Alger.
Bah, il suffit d'avoir le prix Nobel, peut-être. Non, ça suffit largement. Il a quatre voix contre, quand même. Mon cher Philippe,
je vais parler un peu. Oh, je voulais vous parler un peu de
vous
la Turquie.
D'écologie.
Non, je vais parler de la Turquie, mais vous allez voir que on va y revenir. Non pas que les Turcs anatoliens se soient voués à l'écologie. Simplement, c'est parce que je sais que vous êtes un homme de symbole, Patrick, et que il ne vous a pas échappé que le 10 novembre, nous avons commémoré en Turquie la mort de Mustafa Kemal, le fondateur de la République turque et le héros national. Et bien évidemment, comme la Turquie se libéralise, elle aussi, grâce à la commission de Bruxelles qui s'efforce d'insuffler liberté, esprit critique et démocratie. Eh bien, cette fois-ci, c'est le summum du goût a été atteint avec l'anniversaire de Atatürk qui a coïncidé avec une sortie dans les salles de cinéma d'un documentaire événement consacré à Atatürk par un journaliste qui s'appelle Can Dündar. Et donc, l'objet du film est principalement présenter Atatürk comme un être humain, un être profondément tourmenté et alcoolique, un être que l'on montre trop souvent, disent les critiques, en train de pleurer, que l'on voit également s'isoler, douter, pleurer, aimer les femmes, faire des erreurs, et puis pourquoi pas un film qui, et c'est la cerise sur le gâteau, bien qu'on dise qu'il aime les femmes, qui se permet de mettre en doute l'orientation sexuelle du père des Turcs. Donc voilà comment donc on imagine bien comment l'établissement laïque a réagi sur cette volonté évidente de déstabiliser la figure tutélaire d'Atatürk, et on retrouve cette alliance objective entre les libéraux, les ultra-libéraux de la Commission européenne et les islamistes turcs, donc avec un appel au boycott du film, tenez vos enfants éloignés pour éviter de leur instiller les germes de l'humiliation d'Atatürk, etc., etc. Donc voilà ce qui se passe en Turquie autour de cette figure. Et puis pour rester turc et parler quand même d'Europe, eh bien je vous annonce que Sem Özdemir est le premier Allemand d'origine turque à avoir été désigné samedi à la tête des Verts Outre-Rhin. Donc voilà un nouveau compagnon de route pour Daniel Cohn-Bendit. Donc ce fils de travailleur invité, Gastarbeiter en allemand, né en Souabe en 1965, se définit comme un Allemand d'origine turque. Et dans sa déclaration, il a eu ce mot qui a fait frissonner tous ceux qui aiment bien qu'on mélange toutes les identités. Je rêve d'un jour, le coup du rêve on nous l'a déjà fait, mais visiblement ça marche encore. Je rêve d'un jour où en Allemagne cela n'aura plus d'importance que l'on vienne d'Anatolie ou que ses ancêtres aient combattu les Romains dans la bataille de la forêt de Teutobourg. Donc Sem Özdemir a des lettres. Astucieux puisqu'il s'est inspiré des méthodes de Barack Obama en lançant un groupe sur Facebook intitulé Yes We Sem. Sem, c'est son nom. Et on rigole, mais enfin, en cas de victoire d'une coalition Grünen-SPD, pourquoi pas des législatives de 2009, on pourrait très bien retrouver notre cher Özdemir comme ministre des Affaires étrangères.
Ce qui est déjà arrivé,
que c'était le cas, Patrick, vous avez de la mémoire, brave Joschka Fischer. Joschka Fischer qui, pour le coup, n'avait pas fait que des bêtises. On verra si le Turc Özdemir sera aussi russophile que ne l'était Fischer en son temps. Maintenant, je vais vous parler un peu de culture. Je tiens à vous dire quand même, je suis allé dans une exposition, Patrick, que je recommande et qui se tient jusqu'au 12 janvier au Musée national du Moyen Âge, plus communément appelé Musée de Cluny. Donc pour les Parisiens, c'est 6 place Paul Pinlevé, 7505 Paris. Et donc il y a au milieu des collections traditionnelles du Musée de Cluny, et comment ne pas y retourner, ne serait-ce que pour voir la Dame à la Licorne, quand même un moment absolument exceptionnel. Eh bien, donc il y a une exposition qui est intitulée Celtes et Scandinaves, rencontres artistiques, 7e-12e siècle, qui est en fait centrée sur l'évangélisation de ces régions scandinaves. Et donc il y a énormément de bijoux, bien évidemment, d'enluminures. Il y a notamment les enluminures du monastère irlandais de Saint-Gall. il y a le reliquaire de la cloche de Saint-Patrick, et puis il y a tous ces bijoux fantastiques, des crosses en ivoire de morse, des stèles de granit, des fibules, des colliers de chêne pictes, des nœuds végétaux, des dragons, des divinités mystérieuses. Donc vraiment, j'engage les uns et les autres à y aller. Il vaut mieux quand même avoir des enfants en âge de non pas de porter les armes, mais au moins de d'être un petit peu concentré sur le sujet. J'y suis allé avec les miens, c'était un peu, c'était audacieux.
Alors, vous nous avez amené, moi j'ai vu un nombre de BD impressionnantes. Oui. Donc c'est Philippe Grasset qui vous écoutait tout en les feuilletant. Et là vous m'épatez.
Écoutez, il y a...
Alors, le premier album.
Le premier, c'est le plus chouette. C'est les éditions Paquet, comme un paquet, P-A-Q-U-E-T, www.paquet.li, qui sortent une collection qui s'appelle Cockpit. Et dans cette collection Cockpit, donc comme son nom l'indique, c'est visiblement des passionnés d'aviation qui font ça. Et donc ils ont fait plusieurs albums. Le premier, dont le nom m'échappe, que j'ai pas ici, était une saga sur des jeunes pilotes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un Japonais, un Américain, un Français dans Normandie-Niémen et un Allemand. Et donc cette série était fantastique. Et puis au jour-là, ils viennent de sortir donc le tome 1 d'une série qui va s'appeler Le Grand Duc. Le tome 1 s'appelle Les Sorcières de la Nuit. Les Sorcières de la Nuit, c'est le nom que l'on donnait aux pilotes de chasse soviétiques féminines. Qui était envoyé dans les vieux avions, les vieux Rata, qui étaient des avions en bois, pour lutter contre la terrible chasse allemande, avec des taux de perte énormes. Avec, mais on le sait bien que le bolchevisme n'avait pas grande cause du sang de ces soldats,
hommes, donc de ces femmes.
Et donc là, c'est le premier tome, et donc c'est une. Alors évidemment, on a évidemment le héros est un aristocrate pilote qui évidemment est anti-nazi, parce que bien connu, la Luftwaffe regorgeait d'anti-nazi prêt à se rebeller contre Göring et tout ça. Enfin, si on enlève cette figure de style assez convenue, sans quoi on peut rien faire sur le sujet, le dessin est superbe, les uniformes sont rigoureusement décrits, et l'aventure est passionnante. Donc je vous conseille. Et alors dans la même collection, ça y est, j'ai retrouvé, ça s'appelle Le Dernier Envol, qui a d'ailleurs eu le énormément de prix à Angoulême et au salon de la BD de Nîmes. Voilà, donc je vous engage vraiment à cette bande dessinée-là, Le Grand Duc. Tome 1, Les Sorcières de la Nuit, aux éditions Paquet. Et puis sinon, c'est les séries qu'on connaît, donc tous les amateurs de BD les auront déjà repérées chez leur libraire. Je voulais signaler la sortie du premier tome du deuxième cycle de La Complainte des Landes Perdues, chez Dargo. Donc le deuxième cycle s'appelle Les Chevaliers du Pardon. Ceux qui ont connu le premier cycle voient donc tout à fait de quoi je parle. Pour les autres, ils vont donc acheter le premier cycle. Donc le premier tome vient de sortir et il tient tout à fait ses promesses. Là aussi, graphisme puissant, l'histoire est belle, toujours à cette
voilà, on est plutôt dans le Moyen-Âge, dans l'héroïque
fantasy. C'est de l'héroïque fantasy, mais pas dessiné science-fiction, ridicule, prétentieux. C'est très bien, c'est chouette. Voilà. Le quatrième tome de la série Légende, intitulé Le Maître des Songes. Donc là aussi, c'est très arthurien comme scénario. C'est le cas assez classique de l'enfant, le descendant du prince recueilli par les loups dans la forêt, mais marqué par une étoile, et que donc on cherche absolument, l'usurpateur cherche à détruire, et donc comment va-t-il faire pour lever la résistance. Alors c'est assez élaboré. C'est très bien décrit, c'est dans un contexte qu'on imagine 10e, 12e siècle, donc c'est très médiéval. Et c'est là aussi très réussi. Il paraît que le dernier Largo Winch est sorti et qu'il est absolument nul.
Comme toute la série.
Mais il y a un moment où la série, ça commence à devenir. C'est un peu comme la série 13, vous voyez.
Non, mais là, pour le coup, j'ai pas lu.
Vous n'avez pas dit l'éditeur.
L'édition. L'éditeur Soleil.
Oui, l'éditeur pour Légende, donc.
Donc, l'éditeur pour Légende, c'est Soleil. 1, 2, 3, Soleil. www.soleilprod.com. SOLEILPROD.com.
Très bien. Alors, par contre, je regardais sur les complaintes des Landes perdues. En fait, les scénarios sont toujours du faux, mais ils changent à chaque fois parce que sur le cycle de Siobhan, c'était Rosinski qui faisait les dessins.
Sur Siobhan, c'est Rosinski. Rosinski, c'est le dessinateur de Torgal.
De Torgal. Et là, sur les Chevaliers du Pardon, c'est de la Bille.
C'est de lui,
et
mais il y a
ceux
une.
Ceux des Landes perdues, c'est aussi de la Bille.
Il y a une relative homogénéité dans le dessin. Donc, le lecteur qui a aimé le premier cycle ne sera pas surpris.
D'accord.
Et puis, puisqu'on était sur la Première Guerre mondiale également, je voulais simplement faire écho du livre qui est co-signé avec Max Gallo, qu'on ne présente plus, et Patrick Buisson, l'ancien de LCI, le directeur de la chaîne Histoire, et le conseiller politique de l'omniprésent président Sarkozy. Et donc Patrick Buisson assis avec Max Gallo signe.
On a cité combien de fois
Je sais, mais là je crois qu'on a tout battu, ouais. Tous les records. Jean-Pax Meffray est battu.
Oui.
Donc voilà, je voulais
signer oui.
le bouquin qui s'appelle La Grande Guerre 14-18. C'était totalement audacieux comme titre, de Patrick Buisson et Jean-Pascal Souda, une préface de Max Gallo avec les photographies de l'ECPAD, c'est la médiathèque du ministère de la Défense en fait, chez XO Édition, et c'est La Grande Guerre vue par les écrivains. Donc je n'ai pas encore lu cet ouvrage, mais la recension fait envie. Bah écoutez, au menu c'est Bernanos, Peggy, Dorgelès, Barbus, Céline, Drieu-La Rochelle, Apollinaire, Sandrard.
Bah, c'est disons.
J'en passe et des meilleurs s'il en a.
À l'époque, il y avait des écrivains. Et voilà, si on doit suivre aussi, bah, nos amis de la Nouvelle Revue d'Histoire font leur. Mais je pense que tous les auditeurs ont dû déjà l'acheter, le 1918, La Grande Illusion, avec toujours un dossier très complet. J'aimerais bien qu'on ait un mot avant de terminer.
Sur la NRH, hein, pour finir, il y a un article qui est vraiment intéressant parce qu'il est, je trouve, assez novateur. C'est le bilan sur Clémenceau. Et on retrouve le Clémenceau, grosso modo, depuis 1920, avec ses fameux carnets de voyage titrés « Au pied du Sinaï », carnets de voyage qui l'éloigne, semble-t-il, de sa posture de réfusard d'un certain temps. Et puis, au-delà de ça, il y a les péripéties, les manœuvres de Clémenceau, qui arrive à être quasiment considéré comme le vainqueur français de la Première Guerre mondiale, et qui est un homme de contorsion, qui est un véritable artiste, hein, et qui rappelle qui annonce allais-je dire.
Donc j'aimerais bien qu'on termine sur un livre qui est peut-être mais je pense que Lucien Valdez va aussi m'en parler, parce qu'on a eu le même coup de cœur ce mois-ci.
Exactement.
C'est le
on
n'a même pas pu le faire dédicacer, mais comme je connais pas Daniel Mahoney,
c'est un universitaire américain.
Et c'est quand même rare qu'on parle des universitaires américains en bien. Non, je plaisante, c'est son Alexandre Solzhenitsyn, En finir avec l'idéologie, avec un avant-propos par Alain Besançon. Alors peut-être un mot, Lucien Valdez, qu'est-ce qui, pour les gens qui adorent Solzhenitsyn, ou même ceux qui ne l'ont très peu lu, parce que le gros problème, comme les Américains, comme les Français, peut-être moins les Français, mais Solzhenitsyn a été très peu lu, à part l'Archipel du Goulag, ou le Premier Cercle, ou son petit livre qui avait fait scandale pour en finir avec comment réaménager la Russie. On a traité Solzhenitsyn de tous les noms, qu'il était contre le progressisme, contre la modernité, et là, enfin, on a un livre qui est explique réellement l'idéologie de Solzhenitsyn.
Alexandre Solzhenitsyn a été accusé de tout, hein, de tout, et le contraire de tout d'ailleurs. On l'a accusé d'être antisémite, mais aussi philosémite. On l'a accusé d'être slavophile. On l'a accusé d'être ultra-orthodoxe. On l'a accusé d'être un informateur du KGB, mais aussi d'un agent de la CIA.
Qu'on a une très grande maison comme il a eu aux États-Unis, forcément, ça devait être agent de la CIA.
Je vous signale aussi qu'on l'a accusé.
Dans le Vermont.
On l'a accusé aussi d'être membre des services secrets français. Ce qui est vrai. Et en fait, non, ce qui est vrai. L'accusation.
Parce que vous confondez avec Vladimir Volkov.
D'accord. Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est tout ça pour dire qu'on l'a accusé de tout. Et en fait, avec précision, avec méthode, Mahoney définit en fait l'origine de cette hostilité envers l'écrivain russe. C'était de la part de l'intelligentsia, de à la fois des journalistes, à la fois une réaction viscérale contre la remise en cause de ce génicide, de la foi dans le progrès. Et c'est, ça va être le fil rouge de, en tout cas, de ce livre-là. Mahonnet nous parle d'un génicide qu'il débarrasse de toutes les images, caricatures, effectivement, qui ont pu lui être collées depuis une quarantaine d'années. Et je voudrais faire partager donc ce livre avec un documentaire signé de Soukhorov, le grand cinéaste russe, qui s'intitule Le dialogue avec ce génicide, qui est absolument passionnant là aussi, puisque en fait face au mensonge et à la vilenie, bah il fallait la réponse d'un grand artiste, c'est Soukhorov. Le DVD est sorti en France en août dernier. On y découvre un Solzhenitsyn intime, chez lui, à Moscou, dans son jardin, dans la forêt qu'il aime arpenter. Et donc, les deux artistes ont des conversations tête à tête sur les joies, la beauté du monde, un dialogue sur la littérature russe, sur la cruauté. C'est absolument passionnant. Et pour me semble-t-il, la première fois, ce génicide dévoile à la caméra son monde intérieur, comme jamais peut-être auparavant. Et donc, je crois que c'est à la fois la lecture de Alexandre Solzhenitsyn, En finir avec l'idéologie de cet universitaire américain, plus ce film, est quelque chose qu'il faut...
Merci Lucien, en tout cas on redonne les CH chez Fayard Commentaire. Merci à vous, merci Philippe Grasset d'être resté jusqu'à la fin pour écouter Philippe Christel, merci Philippe. Nous vous donnons rendez-vous dans 4 semaines pour un nouveau Libre Journal de la Vieille Europe. D'ici là, bonne soirée à tous.